Totem, le club sang et or. Corentin Monnier, Jean-Charles Virlogeux.
Très belle soirée avec nous sur Totem avec ce nouvel épisode du Club sang et or. Jean-Charles Virlogeux est avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Notre invité Giovanni Hag, milieu de terrain, prochainement suspendu. On aura l'occasion d'en reparler dans les prochaines secondes. Bonsoir Giovanni.
Bonsoir à vous.
On va revenir sur cette semaine folle vécue par le RAF où vous avez joué quand même 259 minutes sur les 270 possibles contre Dunkerque, Troyes et Auxerre.
Vous n'êtes pas trop fatigué d'ailleurs?
Non, ça va.
En forme pour répondre à nos questions, ouais. Et ça c'est bien l'essentiel.
Voilà, c'est ça.
Bon, on se frottait les mains en tout cas à l'approche de cette rencontre face à Auxerre parce que c'était évidemment des équipes qui étaient dans le top 5. Et puis on se disait que ça allait pourquoi pas être un coup extraordinaire fait par les Ruthénois. Ça n'a pas été le cas. Malheureusement, c'est un coup d'arrêt après 3 victoires de suite, notamment face à des équipes fraîchement descendues de Ligue 1. On pense à Angers ou encore à Troyes. Bon, c'était également le cas de Auxerre, mais les Bourguignons étaient un peu plus forts que ces équipes citées, que ce soit Angers ou encore Troyes. Est-ce que c'est ça ou est-ce que vous étiez trop fatigué à la suite de ces trois gros matchs, Giovanni?
La fatigue a été pareille de leur côté aussi, puisqu'ils ont aussi joué deux fois avant de nous rencontrer. Je pense juste qu'on n'a pas réussi à les mettre en difficulté comme on aurait voulu. Et je pense surtout que c'est pour moi une des équipes, si ce n'est la meilleure équipe du championnat, qui mérite sa victoire.
Sur le papier et sur le terrain?
Moi, c'est ce que j'ai ressenti, oui. Sur toutes les équipes qu'on a jouées depuis le début de saison, en tout cas.
Ouais.
Est-ce que le match aurait pu prendre une autre tournure si la tête d'Andreas ou Tonji va au fond en début de rencontre?
Je sais pas, moi je suis quelqu'un, j'aime pas refaire les matchs. Après c'est sûr que si elle va au fond, c'est pas le même match. Peut-être qu'eux ils poussent encore plus d'ailleurs que ce qu'ils l'ont fait. On sait pas, franchement, on sait pas du tout. Je sais juste que pour moi, en tout cas, leur victoire elle est méritée parce que c'est une équipe... Qui a été en tout cas supérieur sur tous les aspects samedi contre nous et qui va, je pense, jouer les premières places toute la saison.
Ok, bon, en tout cas, votre constat est clair. Il y a de la réussite quand même, c'est vrai, sur l'ouverture du score hein, de la part de Auxerre, mais on va dire que c'est quand même un but que Rodez n'aurait pas dû prendre, malgré la différence de niveau. Voilà, c'est pas là-dessus que la différence aurait dû se faire, vous pensez?
Bah, il y a de la réussite sur le premier but, mais il y en a aussi sur le deuxième. La réussite, déjà, moi, je pense qu'il faut se la procurer. C'est ce qu'ils ont réussi à faire. Et dans un match, pour marquer des buts, il en faut de la réussite. Donc, peut-être que s'ils auraient eu ce manque de réussite, on aurait réussi un peu plus les accrocher. Mais bon, comme je vous ai dit, refaire le match, je pense que c'est pas top. Voilà, c'est passé. Nous, on est déjà sur Caen.
On va tenter quand même d'expliquer le premier but qui part d'une touche. C'est le constat fait. Les deux buts, hein, d'ailleurs, les deux premiers buts d'Auxerre partent de touche. Justement, est-ce que c'est une amélioration, une des choses à améliorer et déjà identifiée par votre coach en ce début de saison, oublier de se replacer, protester contre l'arbitre et du coup, derrière, on n'est pas en place, on subit l'attaque d'Auxerre et malheureusement l'ouverture du score?
Le premier but, ouais, c'est sur la touche, mais je pense pas que ce soit le fait qu'on soit pas replacé, parce que je pense qu'on est en place sur la touche. C'est juste que on a un manque d'agressivité,
de concentration. Ouais, le coach m'avait reproché un peu à Hamad d'avoir réclamé la faute et peut-être de pas avoir été très attentif.
C'est un manque d'attention, d'agressivité et c'est un axe de progression. Mais le coach nous l'a fait savoir tout de suite à la mi-temps, parce que à notre niveau, c'est des choses qu'on doit ne pas se permettre de donner à l'adversaire, surtout un adversaire de qualité comme les Auxerre, pardon. Donc c'est un axe de progression comme on en a plusieurs et c'est bête. En fait, c'est bête de prendre des buts ou même de se mettre en difficulté sur des phases arrêtées, puisque sur le deuxième, c'est la même chose.
L'absus est un peu révélateur. Hein.
Oui, vous dites
une équipe compliquée à jouer et qui a des qualités en disant Rodez et finalement en se rattrapant en disant Auxerre. C'est vrai que Rodez a aussi des belles qualités. On aura l'occasion d'en parler dans les prochaines secondes.
Et vous dites bête et votre coach dit souvent stupide pour ce genre de but. C'est ce qu'il a dit. Il a un peu gueulé alors encore parce que c'est devenu un peu la tradition. La gueulante du coach à la mi-temps. Ça s'était calmé ces derniers matchs quand même.
Ça s'était calmé, mais c'est ce qui nous a permis d'enchaîner sur 3 victoires à la mi-temps d'Angers. Donc. Comme vous l'avez dit, oui, c'est bête, stupide. C'est surtout des choses qu'on donne entre guillemets un peu à l'adversaire qui n'a pas besoin.
Oui.
Donc, c'est des choses qu'on doit rectifier.
Alors, le deuxième but, voire le troisième d'ailleurs, résume assez bien cette supériorité d'Auxerre dont vous parlez, puisque ils interviennent après une série, en tout cas le deuxième, une série de duels perdus vraiment par Rodez. Même si les joueurs d'Auxerre, c'est vrai, ont du ballon, ils ont du talent, il manquait peut-être aussi un peu de vivacité et de fraîcheur à Rodez. Peut-être que la fatigue s'est plus sentie dans votre camp. Vous voyez, on essaye de vous trouver des excuses. C'est en tout cas ce qu'estimait Joris Chougrani après la rencontre.
On est tombé sur une équipe qui nous était supérieure. Après, on n'a pas su leur poser des problèmes dans l'intensité qu'on a su mettre contre 3. Ce qui a fait notre force le dernier match, c'est qu'on est allé chercher les joueurs, on a défendu en avançant et tout ça. Et contre une équipe qui nous est supérieure techniquement, si on recule, on leur laisse trop d'espace et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc c'est là où il va falloir qu'on travaille sur les prochains matchs.
Ouais, Auxerre est une équipe qui repart beaucoup de l'arrière, sans balancer. Et c'est d'ailleurs comme ça que Rodez va avoir un peu l'espoir fou de revenir in extremis dans ce match. À un moment, effectivement, l'espoir du match nul était bien là, mais un peu tard, dans les toutes dernières minutes. Il aurait fallu davantage jouer cette carte-là, vous pensez, aller les chercher
après le but
en général, dans le match.
En général, dans le match. Je sais pas si ça aurait pu plus les mettre en difficulté, mais je pense que on aurait dû mettre, comme l'a dit Joris, plus d'agressivité et de la bonne agressivité, ce qu'on avait fait contre 3 par exemple, comme il l'a dit.
Et ça s'était traduit par ça, notamment ce pressing qui quand même avait bien gêné 3. Hein.
Après c'est différent quand tu joues à domicile, c'est différent parce qu'à domicile tu te dois d'aller chercher plus le truc qu'à l'extérieur. Mais je pense qu'il nous a manqué un brin d'agressivité, quelque chose de plus sur les deux buts d'ailleurs, parce que je pense que si on l'a, on les prend pas. Et je pense que c'est ce qui nous a fait défaut sur les deux premiers buts qu'on encaisse. Après, Kylian réduit la marque. Je pense que sur le coup d'envoi, là, on doit vraiment aller les chercher à bloc. Chose qu'on n'a pas fait. Eux, ils font une superbe action. On va pas leur enlever ça, mais je pense qu'après le but de Kylian, on doit un peu tout donner pour aller les chercher.
Ouais. Alors on a effectivement le sentiment que Rodez n'a pas pu autant exister qu'il le voulait, et même beaucoup exister dans ce match. Un tir cadré seulement, deux fois moins de passes que Auxerre. 34% de possession, ça c'est pas forcément très surprenant, hein. On sait que c'est plutôt votre filière. Et puis deux buts, effectivement, on l'a évoqué, encaissés sur des touches, ce qui nous emmène à...
C'est la question conne, réponse conne.
La fameuse question à la cour. Alors, c'est un rendez-vous que vous connaissez pas, Giovanni, puisque vous êtes nouveau dans ce studio, mais c'est le rendez-vous de Jean-Charles Virelogeux. C'est une question qui paraît anodine, comme ça, sur le papier, mais il y a une vraie réflexion derrière.
Qui paraît conne. Vous avez eu
oui,
droit.
Mais j'ai pas osé.
Ouais, vous avez eu droit à deux séances d'entraînement aujourd'hui, programme chargé. Est-ce que c'était justement pour faire un atelier touche?
Réponse conne, non.
Voilà. On travaille pas les touches. On n'a pas, en tout cas, travaillé les touches sur ces séances d'entraînement. Mais c'est vrai que.
Ça va peut-être venir dans la semaine.
Peut-être, oui, puisque c'est le premier jour de reprise, puisqu'on a eu deux jours après la semaine à trois matchs où on a fait 15 jours non-stop.
Ouais. Là, on a un repris, peu de repos bien mérité.
Ouais, voilà. On a repris ce matin par une séance de mise en jambe à peu près, un peu tranquille, et cet après-midi un peu plus de vivacité, de jeu. Et sûrement que demain, pendant la mise en place, ces choses-là, ou même jeudi, on le fera. Je ne sais pas du tout.
Giovanni Hague, qui est notre invité dans le club sans rien.
La vraie question à la con, en fait, c'est celle-là. Pourquoi prendre un but sur une touche, c'est interdit? Ou en tout cas, on voit que ça hérisse toujours le poil des entraîneurs.
C'est interdit pour plusieurs choses. Déjà, le contexte. On joue à l'extérieur contre une équipe de qualité. Et si, contre une équipe de qualité, tu prends des buts sur des phases arrêtées, c'est plus compliqué que ça ne l'est déjà au départ, déjà ça. Et puis surtout, à notre niveau, on est quand même des footballeurs professionnels, c'est notre métier. Et sur une phase arrêtée, on se doit d'être déjà en place, attentif, et de ne pas prendre ce genre de but, tout simplement.
Et oui, parce que sur des phases arrêtées, normalement, tout le monde doit s'être replacé. Voilà. On ne peut pas dire « Ah bah oui, mais j'ai pas eu le temps de revenir ». Normalement, voilà, tout le monde doit être en place. Même si les touches peuvent être jouées vite aussi.
Oui, c'est ça. Nous, on le fait, nous, avec Hamad, qui a des touches et qui vont je ne sais où.
Des touches longues, ouais.
Voilà, donc nous on le fait, c'est pour ça qu'on le joue, mais à l'inverse de ça, contre nous, on doit être attentif, surtout dans notre moitié de terrain, si ce n'est même devant notre surface de réparation, encore plus.
Je n'ai pas dit que tu étais un con. Hein. Je dis que globalement, la question, elle est con.
Et pour clôturer cette petite session de la question à la con avec Jean-Charles Virlogeux, on va revenir sur ce match face à Auxerre avec vous, Giovanni. Alors, Rodez, on le sait, espérait peut-être un petit peu mieux que ce résultat et cette défaite. Est-ce que vous le voyez comme une piqûre de rappel pour justement cette saison? Autrement dit, que regardez ces équipes qui vont jouer, pourquoi pas la montée, c'est peut-être une marche trop élevée pour Rodez, ou pour vous, Rodez est capable de faire mieux contre ce type d'équipe et d'aller, pourquoi pas, chercher un top 5. Allez, soyons ambitieux, un top 3.
Alors, une piqûre de rappel, non, je pense pas. Parce que nous, ces équipes-là du top 5, on les regarde pas. L'objectif, avant tout, du club, c'est le maintien. Et on va tout faire déjà pour l'atteindre, cet objectif. Et je pense que, comme je l'ai déjà dit, il me semble que c'est après le match d'Angers, on peut finir dans les 10. Après, faut être réaliste aussi. Il y a de très grosses équipes dans ce championnat. Je pense à des équipes comme Saint-Étienne, Bordeaux, même Auxerre, qui ont des effectifs et des budgets de Ligue 1. Donc on est réaliste. Nous, on joue notre football, on joue tous les matchs pour les gagner, comme on le fait depuis le début de la saison. Et puis, ouais, faut être réaliste. Je pense se dire que finir d'aller du premier, ce serait déjà top. Et puis après, si le bonheur peut venir à nous... Et nous, par ailleurs, aller chercher plus, on va
ça
pas
se gêner. Ça sera du bonus.
Voilà, ce sera okay. Du bonus et on va pas se gêner.
Dans un premier temps, le maintien et plus c'est affinité, comme on dit.
Et d'ailleurs, pour l'instant, Rodez reste bien positionné au classement. Hein. Sixième à 4 points du podium. Il ne faut pas que cette défaite fasse oublier, évidemment, la très belle séquence précédente. 3 victoires consécutives. Et logique en plus, hein, il n'y a pas eu de victoire tirée par les cheveux. Le réveil, on le sait, il date de la mi-temps contre Angers. Ça a été un révélateur de votre potentiel d'équipe, ça, la deuxième mi-temps que vous avez fait contre le SCO?
Un révélateur, je pense pas, parce qu'on savait de quoi on était capable tous ensemble. Mais savoir de quoi on est capable et montrer de quoi on est capable, c'est différent. Donc, à la mi-temps, on s'est dit des choses, le staff nous a dit des choses. Et voilà, en tant qu'homme, surtout, on se doit de penser au club, à l'écusson, etc. On a notre fierté propre à nous-mêmes, donc ça a réveillé un peu tout ça. Et le match d'Angers, nous a permis de faire cette série. Simplement.
Est-ce que c'est même pas le match contre Pau, là où vous marquez un but extraordinaire de la surface de réparation, qui permet ce réveil? On rappelle que c'était un match plutôt mal embarqué pour Rodez avant la trêve. Est-ce que le réveil, même, ou en tout cas ce début d'évolution, il date pas de ce match-là?
C'est un peu le même match qu'Angers, en fait. En deuxième mi-temps, on réagit. Je pensais justement, mais quand je vois un peu la première mi-temps d'Angers, je me dis que ça ne nous a pas suffi. Donc je pense plus que le fait que des choses ont été dites à la mi-temps nous a tous un peu secoués et nous a fait repartir de l'avant.
Alors depuis l'an dernier déjà, Rodez montre des progrès dans le jeu, mais pour que ce talent s'exprime, c'est vrai qu'il faut ajouter l'intensité. Rodez doit faire dans l'intensité. C'est cette combinaison des deux que vous diriez que Rodez a particulièrement réussi sur cet enchaînement de 3 victoires?
Oui, je pense que c'est un peu ça, parce que l'ADN du club, depuis que moi je suis là en tout cas, et comme je la voyais quand j'étais à Nancy, c'est avant tout l'intensité, l'agressivité, ces choses-là. Et puis après, avec le ballon, nous, je pense qu'à l'intérieur de l'effectif, on a des joueurs qui peuvent jouer au football, pratiquer du beau football. Donc je pense que mixer les deux, c'est ce qui fonctionne parfaitement et c'est ce qui nous a permis d'obtenir des bons résultats sur cette semaine à 3 matchs et même revenir de Pau, parce que c'était aussi compliqué de revenir de 2-0. Donc ouais, je pense que mixer ces deux choses-là, c'est important.
C'est un enchaînement, en tout cas, qui vous a permis de décrocher votre première victoire à l'extérieur cette saison à Dunkerque. Il y a une vraie différence entre vos résultats à la maison et à l'extérieur. Alors, j'allais dire, ça c'est assez logique pour pas mal d'équipes. C'est pas très étonnant dans ces proportions. Vous avez marqué 2 fois plus de points à la maison qu'à l'extérieur. Jusque-là, rien de très anormal. Mais votre défense est quand même nettement plus solide à Paul Lignon. Alors, ce qui est marrant, entre guillemets, c'est que l'année dernière, vous n'étiez pas là, mais c'était exactement l'inverse pendant longtemps. Rodez ne marquait absolument pas un point à la maison. Et aller chercher les points à l'extérieur. On est revenu à quelque chose d'un peu plus cohérent. Mais est-ce qu'une des marges de progression que possède Rodez, ce sont ces matchs à l'extérieur, justement, faire mieux à l'extérieur. Est-ce qu'il y a quelque chose à puiser dans ce que vous faites à Paul Lignon sur ces matchs à l'extérieur?
Bah, sur les matchs à l'extérieur, quand on regarde, on est allé à Ajaccio chercher un bon match nul sur un terrain à la limite du praticable. Après, on a perdu à Laval, il me semble, c'est ça.
Ouais.
Après, on allait gagner un match très compliqué à Dunkerque.
Ouais.
On a réussi à être très solide, même si on a pris le but sur corner. Et puis là, il y a ce match d'Auxerre, on a joué une équipe supérieure à nous.
Et donc le match nul à Pau également.
Et le match nul à Pau, voilà, où on a fait preuve de caractère. Après, je pense que c'est comme contre Angers, nos entames qui ne nous ont pas permis d'avoir d'aussi bons résultats qu'à Paul Lignon, puisqu'on prend deux buts en première mi-temps à Pau. On se fait revenir à la mi-temps, en première mi-temps contre la GIA, et puis il y a ce match-là à Auxerre. Donc,
et il n'y a pas forcément un public peut-être aussi pour vous pousser
ouais,
à revenir.
Il y a ça aussi, mais je pense qu'on se doit, surtout à notre niveau, de s'adapter. Alors je ne saurais pas comment l'expliquer, mais nous, en tout cas, je peux vous dire que dans l'intérieur de l'équipe, quand on va à l'extérieur, on ne va pas pour jouer un match nul, on va pour gagner. Hein, donc il y a peut-être ces choses-là, le public... qui nous emballe sur une petite action, des choses là qui peuvent faire du bien, etc. Donc, mis à part ça, je vois pas ce qui peut vraiment
expliquer la différence.
Voilà,
de
expliquer cette différence là. Voilà.
Ouais. Bon, on est encore en début de saison et il est tôt aussi pour évidemment tirer des conclusions très très générales au bout de 8 ou 9 journées. En tout cas. Ce début de saison montre aussi le maintien d'une tendance, c'est que Rodez aime les grosses équipes. Vous en avez déjà fait tomber deux équipes du top 10 au moment où se jouaient les matchs. Hein. Il y en avait eu 4 à 5 l'an dernier sur toute la saison, donc vous êtes bien parti pour faire mieux. Le record, c'était 6. Il y a 3 saisons, là, on peut même dire que Rodez avait carrément construit son maintien en battant ce genre d'équipe. Rodez joue mieux, donc, on le disait, c'est flagrant. Mais préfère quand même laisser le ballon à l'autre, on va dire ça, pour la faire courte.
Je sais pas si c'est ça. Nous, quand on joue une équipe, on analyse ses points forts et ses points faibles. Quand on peut jouer, on joue. Parce que on a des joueurs qui aiment jouer, moi le premier d'ailleurs.
Le beau jeu n'empêche pas. 38% de possession contre 3, 45% contre Angers. Et on a quand même l'impression que vous avez fait de très beaux enchaînements.
Hein. Oui, des très beaux enchaînements. Mais comme vous dites, contre 3, on avait analysé qu'ils aimaient bien avoir le ballon, mais sur des pertes, on pouvait leur faire mal. Toutes ces choses-là. Quoi. Donc, je ne suis même pas sûr que ce soit voulu de vraiment laisser le ballon à l'adversaire. C'est juste que c'est des analyses qu'on fait, que le staff fait avant tout la semaine pour... mettre toutes les chances de notre côté pour gagner le match. Gagner le match, ça ne veut pas dire avoir 60% de possession de balle, la preuve. Hein. Donc je pense que ouais, il y a un peu des deux, puis ça dépend les matchs. On a joué Valenciennes, il me semble qu'on avait 70% de possession de balle,
oui.
Et on l'a pas gagné le match.
Non.
Donc,
ouais, mais c'est pour ça. C'est effectivement peut-être que la clé de votre réussite, c'est ces enchaînements rapides, finalement.
67%, ouais. Pour être précis.
Ouais, on a des joueurs qui vont vite devant en plus, donc... Je pense qu'on est capable de faire les deux. En ce moment, c'est un peu plus le fait d'être sur des attaques rapides, comme vous l'avez dit. Donc, tant que ça fonctionne, nous, ça nous va complètement.
Bien sûr.
Fin de cette première partie. Jean-Charles, Giovanni, vous restez évidemment avec nous. Pour découvrir la deuxième partie, rendez-vous en podcast sur notre site radiototem.fr. On rappelle que le prochain adversaire de Rodez, ça sera ce samedi à 19h au stade Paul Lignon. Et son nom, quand ? Je sais que vous alliez faire des jeux de mots un peu bizarres avec ça, donc j'ai préféré séparer un peu tout ça. Rendez-vous ce samedi 19h pour la prochaine rencontre, 10e journée de Ligue 2 BKT, avec Giovanni qui ne sera pas suspendu pour cette rencontre. Ça sera pour la rencontre d'après. On aura l'occasion d'en parler justement dans le podcast. Rendez-vous sur notre site à radiototem.fr pour la deuxième partie.
Tout de suite.
Le club sang et or sur Totem. Totem, le club sang et or. Corentin Monnier, Jean-Charles Virlogeux.
Deuxième partie de ce club sans erreur avec Giovanni Hack, qui est toujours notre invité, le milieu de terrain du Rodez Aveyron Football. On aura l'occasion de s'intéresser à votre parcours professionnel, mais également amateur, Giovanni, dans les prochaines secondes. Mais avant ça, on va s'intéresser à Caen, le prochain adversaire de Rodez, ce samedi à Paul Lignon. Après un début de championnat en boulet de canon, hein, l'équipe de Jean-Marc Furlan, avec 4 victoires en 4 matchs, et ben les Normands calent un peu, 4 défaites lors de leurs 4 derniers matchs. Avant le match de ce soir contre Bordeaux, le meilleur buteur de la Ligue 2, et ben il est cané. C'est Alexandre Mendy, 6 buts en 8 matchs. Ali Abdi, latéral gauche de cette équipe, est déjà à 4 buts lui aussi en 8 matchs. Cette équipe qui a donc des atouts offensifs. Si on met de côté la puissance de feu de Auxerre avec ses 21 buts marqués en 9 matchs, et ben Caen fait partie du top 5, comme Rodez d'ailleurs. Rodez a même marqué 2 buts de plus. Et pourtant, peut-être sans goléador comme Alexandre Mendy. Rappelons également que bah justement, le grand attaquant, peut-être celui recherché par l'Olympique de Marseille, eh ben, il a rejoint Caen.
Faut le dire avec l'accent.
Le grand attaquant, exactement. Mickaël Le Bihan a rejoint Caen cet été. Lui qui a quand même inscrit une grosse 80aine de buts depuis qu'il est pro. Côté Rodez, le meilleur buteur sans et hors, c'est Kylian Corredor avec 3 buts. Rapide analyse justement du jeu de Caen. Une formation qui utilise beaucoup les côtés avec des duos Ali Abdi, Mathias Sautré, et qui à droite utilise le duo Valentin Henry associé à Johan Cour.
Ah tiens, ça me dit quelque chose.
Ouais, on aura l'occasion d'en reparler dans quelques instants de Valentin Henry. Le coach Jean-Marc Furlan qui s'appuie sur une défense à 4 avec Romain Thomas, l'un des deux axiaux qui avait pris, souvenez-vous, un sacré courant d'air l'année dernière face à certains Kylian Corredor à Paul Lignon. Sinon, pour finir sur le plan de jeu, un milieu en sentinelle, une unité de milieu à 4, un peu plus offensif, et un attaquant de pointe qui aura pour objectif d'être un finisseur et surtout de permettre à son équipe de garder les ballons dos au but adverse. Là, c'est le cas justement de Alexandre Mendy. Valentin Henry, on en parlait, que l'on connaît bien à Rodez, arrivé à l'été 2019, reparti à l'été 2021 pour rejoindre Sochaux. Il est arrivé à Caen cet été. Et du coup, on se pose cette question, Giovanni, est-ce que ce ne sera pas très important de réenclencher la marche avant à domicile, à Paul Lignon, face à cette équipe qui est un peu en perdition, il faut bien le préciser.
Si, ce sera très très important pour nous après la défaite à Auxerre, pour pouvoir aussi ensuite enchaîner à domicile face à Bastia et réenclencher une série comme on l'a fait. Donc ouais, ce sera très très important face à une belle équipe. Je pense qu'il y aura du monde, donc ce sera très important à la maison de gagner.
Entre-temps, on rappelle qu'entre le match de Caen et de Bastia, il y aura eu la trêve. Ouais. Ça va permettre aux organismes peut-être de récupérer aussi un petit peu de force, quoi.
Ouais, c'est ça.
Donc la prochaine rendez-vous, ça sera ce samedi face à Caen. Et donc là, le rendez-vous est pris. Bastia, match auquel vous ne pourrez pas participer, Giovanni, on est bien d'accord.
Ouais, c'est ça.
3 cartons jaunes reçus.
C'est ça.
On va en parler dans un instant.
Le club sang et or sur Totem.
On va vous découvrir un petit peu plus, Giovanni Hag, puisque vous êtes né à Metz, mais vous étiez un joueur de l'ASNL, l'AS Nancy-Lorraine, chose assez rare. Vous êtes allé dans le club d'à côté, quoi, finalement.
Ouais, c'est ça.
Pas trop de... Comment ça s'est passé finalement? Parce que d'être d'origine de Metz et partir à Nancy, est-ce que c'est pas finalement une petite trahison quand même côté messin?
Trahison, je sais pas. En fait, moi, ce qui s'est passé déjà, c'est que j'ai commencé le foot très tard. J'ai commencé le foot à 10 ans. Et à l'âge de 11-12 ans, j'avais un petit peu Metz et Nancy. Sauf que j'ai le recruteur de Nancy qui a créé une proximité avec moi tout de suite. Et c'est les premiers, entre guillemets, à être venus. Donc, c'est pour ça que mon choix, il est resté sur Nancy.
Donc, presque dès la première année de foot, vous êtes fait repérer par un club professionnel.
C'est pas presque. Je crois que c'est dès ma première année, hein, si je ne me trompe pas.
Non, vous connaissez certainement mieux votre vie que moi.
Ouais, ça fait un moment maintenant. Mais je pense que c'est ça, ou peut-être la deuxième, à la limite. Mais ça s'est fait très, très, très vite.
Bon, vous avez découvert, en tout cas, la Ligue 2 à 18 ans avec Nancy. Avant de rejoindre Rodez, vous sortiez d'une saison blanche. On est bien d'accord là-dessus. Ouais, on va en parler, ça. Justement. Est-ce qu'on peut dire qu'à ce moment-là, vous avez fait un peu la forte tête? Nancy descendait en National. Et c'est à ce moment-là que, justement, vous vouliez partir de ce club-là pour avoir, pourquoi pas, d'autres clubs qui vous sollicitaient. Et là, on vous a mis un peu au placard.
Ouais.
C'est un peu l'idée.
C'est un peu ça. Après, ce que les gens ne savent pas, c'est que avant que le club descende, l'été avant que le club descende, j'avais également demandé à partir.
Donc, été 2020-2021,
ouais, c'est ça.
Et après 2021-2022, c'est là où Nancy descend en National.
Voilà, c'est ça. J'avais déjà demandé à partir parce que j'estimais pour moi que c'était le bon moment, j'étais prêt. Vous savez, quand vous faites 10 ans dans un club, au bout d'un moment, vous avez envie de voir ailleurs et vous pensez que vous avez fait le tour. Donc ça s'était pas fait, je sentais que c'était l'année de trop, une saison qui s'est mal passée. Donc après, oui, j'ai fait un peu ma forte tête pour pouvoir partir.
Est-ce que ça veut dire que vous avez un mauvais caractère, ça, Giovanni Hag?
Non, non, du tout. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut surtout dire que je suis quelqu'un qui ne fait pas semblant, qui n'arrive pas à faire semblant. Donc, des fois, c'est bien, des fois, non.
Comment vous l'avez vécu, cette saison blanche, sans jouer avec Nancy, l'année dernière, justement ?
Bah, je ne vais pas vous dire que ça a été facile, mais en tout cas, je m'y étais préparé, j'ai travaillé, j'ai fait ce qu'il fallait de mon côté pour être prêt en cas de nouveaux challenges, ce qui a été le cas. Donc,
Rodez qui est venu frapper à la porte ?
Ouais, c'est ça.
Comment ça s'est passé ? Parce que du coup, pas la possibilité de vous voir sur le terrain pendant l'année dernière. Comment ça s'est passé ? Est-ce que Rodez était déjà venu au contact un peu avant ? Comment ça s'est passé tout ça ?
Non, ce qui s'est passé, c'est que je pense que le club connaissait mes qualités vu que je jouais en Ligue 2 et souvent contre Rodez. Et il me semble que c'est courant juin que Grégory Ursul a pris contact avec mes représentants. Et ça s'est fait assez vite puisque moi j'avais besoin de trouver du temps de jeu en Ligue 2 principalement. Donc ça s'est fait assez vite.
Et donc le discours du manager général du RAF, Grégory Ursul, est plutôt bien passé.
Oui, sinon je ne serais pas là.
Évidemment, bonne réponse. On va revenir sur une histoire qui date d'octobre 2021. Évidemment, vous vous souvenez très certainement, Giovanni, il y a 2 ans, vous avez été expulsé 4 fois en 12 journées de championnat. Ça avait fait évidemment un peu parler. Bon, si on tient compte des matchs de suspension, ça fait 4 cartons rouges en 7 matchs. C'est un record en Ligue 2, il faut le savoir. On va ouvrir une grande page autour du rôle de milieu de terrain des forces centrales dans quelques instants. Mais Avant tout ça, est-ce que ça veut dire que c'est un signe de mauvaise maîtrise de vous-même ou on va dire que c'était un épisode de votre jeunesse fougueuse à l'époque, impétueuse de recevoir autant de cartons rouges en si peu de matchs ?
Aucun des deux. Je pense que, en fait, mon jeu il a été le même la saison qui précédait ces cartons rouges. Sauf que, vous savez, quand vous êtes dans une passe où pas grand-chose ne va, on avait 2 points en 10 matchs. Pas grand chose n'allait, pas grand chose tournait en notre faveur. Donc je pense que c'était un peu le fait d'être dans une spirale négative, d'être en retard sur des ballons, des situations, des choses là, parce que j'ai pris un carton rouge en tant que dernier défenseur à Dunkerque déjà. J'en ai pris un la première journée sur 2 cartons jaunes. C'est des fautes un peu bêtes, même pas des choses dangereuses ou quoi que ce soit.
Est-ce que c'est de l'inexpérience?
Non, je pense pas que ce soit d'une expérience. Je pense que c'est, enfin, selon moi en tout cas, le fait d'être dans une spirale négative qui n'a pas.
C'est la mauvaise dynamique, quoi.
Voilà, je pense que c'est surtout ça en fait.
D'ailleurs, un peu dans le collimateur des arbitres aussi, vous diriez. C'est un peu une spirale, c'est-à-dire que un joueur qui a déjà été expulsé, on se dit bon, allez, je lui en remets un. Visiblement, il a pas compris.
Je sais pas, mais en tout cas, je les connais bien, quoi.
Et c'est vrai que cette série vous avait valu les honneurs, si on peut appeler ça comme ça, d'être cité dans le club Saint-Yor à l'époque dans un quiz. Oui. Si on avait su que 1 an et demi après vous seriez à cette table,
c'est vrai. Le destin est magique, ouais. Effectivement, Jean-Charles. Au passage, donc, on a souligné 3 cartons jaunes reçus, dont le dernier à Auxerre. Ça signifie donc une suspension pour Giovanni. Ça sera lors de la réception de Bastia le 21 octobre prochain. Milieu de terrain, on le sait que c'est évidemment un combat, car c'est l'équipe qui gagne cette partie-là qui est dans une meilleure posture que l'autre. Justement, c'est votre rôle, Giovanni, d'être au milieu du terrain, des fois un peu plus bas avec ce rôle de défenseur central, mettre de l'impact, gagner ses duels. Justement, comment on gagne ces duels ? Est-ce que c'est de la concentration, de l'analyse de l'adversaire ou finalement juste de la chance?
Je pense qu'il y a plein de choses. Déjà, je pense que pour gagner ces duels, il faut surtout être bien physiquement affûté, puisque ça joue beaucoup sur des détails, 1 mètre, 2 mètres, ces choses-là. Je pense qu'il faut avoir une tête, pouvoir anticiper, lire les situations de jeu quand il le faut, et il faut surtout avoir envie de les gagner et être positif avant d'aller sur un duel. Et je pense que, ouais, la chance, non, je suis pas sûr, mais je pense que les 2-3 petites choses que je viens de vous dire, c'est très important.
Ouais, la chance, évidemment, c'était un peu de la provocation. Ouais. De temps en temps, ça se passe pas comme prévu, on est un peu en retard, la sanction tombe, le premier carton jaune. Comment on joue, justement, dans un rôle où il y a beaucoup d'impact au milieu de terrain, avec une épée au-dessus de la tête, avec un carton jaune? Est-ce qu'on y fait attention? Est-ce qu'il y a des consignes données?
Des consignes données, non, parce que je pense qu'à notre niveau, on doit être capable de pouvoir se gérer. Moi, je sais que, en fait, mon match, je le joue normalement. Si je prends un carton jaune, bien sûr que je vais faire plus attention, mais je ne vais pas non plus ne pas aller sur un duel ou quoi que ce soit. C'est juste que je sens que je suis un peu en retard. Je vais pas aller me jeter.
On se retient bêtement. Un peu, quoi, quand même. Si on arrive
oui,
à
voilà,
pas en retard,
je vais pas
on
aller
se
me jeter bêtement ou prendre un risque, comme je le prendrais si j'en avais pas.
À l'inverse, est-ce qu'on met plus de pression sur un joueur adverse qui a une sanction? Est-ce qu'on lui met des petits mots doux à l'oreille? Est-ce qu'on lui chatouille un peu les chevilles?
Ouais.
Ça ouais, arrive.
Bah, si c'est un défenseur, par exemple, hein, on le fait rappeler à nos attaquants d'insister, et puis même à l'arbitre, un petit peu de pression, c'est le jeu, quoi.
Ouais, on le cible un peu quand même.
Oui, voilà, c'est ça.
On le cible un peu, on en parle entre coéquipiers en disant eh, n'oublie pas, lui, il a un petit carton jaune. Si tu pouvais lui susurrer quelques mots doux à l'oreille, peut-être que ça va le faire disjoncter. C'est un peu l'idée.
Ça
arrive. Il n'y a pas qu'au niveau district, bien sûr. Ça se passe aussi au niveau professionnel, Jean-Charles.
Ouais. On parle beaucoup des qualités d'un bon milieu de terrain et d'une bonne sentinelle. On avait parlé de vous il y a quelques jours à votre coach Didier Santini, justement pour savoir ce qu'il aimait particulièrement chez vous. Écoutez.
C'est que c'est un gamin extraordinaire, c'est un travailleur, il bosse. Il est respectueux et puis surtout il est honnête quand il te dit capote. Ça c'est important. C'est important parce qu'il sait que ses potes sur le banc ils sont bons quoi. Et que les mecs après c'est des choix qui se jouent à rien et qu'il faut qu'ils participent et qu'ils soient performants et que lui il devient moins performant défensivement. Donc ça devient dangereux pour l'équipe. C'est un joueur qui avait d'énormes qualités déjà à Nancy. Il y avait beaucoup de clubs qui étaient dessus. Après je sais pas pourquoi il a pas joué pendant un an et demi. Je trouve ça complètement stupide de pas faire jouer des gens s'ils ont le niveau. Donc voilà, après de ne pas jouer c'est difficile, mais on savait que dans les profils demandés, c'était un joueur. Il fallait un joueur qui soit à la fois, qui amène de l'agressivité, qui aime ce poste-là, mais qui avec une grosse agressivité, mais qui ait aussi ce profil technique de passe qu'on aime. Et je pense que les dirigeants ont fait un super boulot.
Quelques compliments de la part de votre coach Didier Santini. Et d'ailleurs, on l'invite, votre coach, à écouter justement ce podcast du Club Saint-Léor pour savoir pourquoi vous n'avez pas joué l'été dernier et toute la saison dernière.
Oui, et Capoute, il faisait référence à des premiers matchs que vous n'aviez pas joué en entier. C'est pas vraiment le cas hein, désormais. Parce une des raisons finalement au jeu plus abouti que pratique Rodez cette saison, c'est peut-être aussi votre présence au milieu de terrain. Alors, c'est pas que vos prédécesseurs... Et démérité, hein, mais ça fait un moment que Rodez cherche quand même la bonne recette au poste de sentinelle, un poste auquel il a souvent fallu faire tourner hein, depuis 2 ans. On y a vu Rémi Boissier, on y a vu Bradley Danger, on y a vu Antoine Valerio, Lorenzo Rajo, parfois même 2 récupérateurs. Là, franchement, là, depuis quelques temps, les choses semblent plus claires, un peu comme à l'époque de David Doulin. On vous a déjà comparé effectivement à David Doulin, parce que la ressemblance, j'allais dire, dans votre attitude saute aux yeux. Vous avez débuté d'ailleurs, malgré l'enchaînement de 3 matchs, vous étiez titulaire sur les 3.
Ouais, c'est ça. Après, pas jouer pendant un an et demi, c'est compliqué, revenir petit à petit dans le rythme et pouvoir faire 90. C'est pour ça, quand je suis arrivé d'ailleurs, j'ai été très très bien géré par le staff. Donc c'est pour ça que j'ai fait des petits bouts de match petit à petit et j'ai été lancé à Pau, sauf que quand à la 72-73e, je sens que je suis en retard sur quelques situations et que je ne vais pas être à 100% et pas aider l'équipe, comme l'a dit le coach, j'ai préféré être honnête.
C'est vous qui l'avez dit. Est-ce que c'est souvent le cas, ça, ou est-ce que les joueurs attendent plutôt que...
Le cache un peu, ouais.
Je pense que chaque joueur essaie d'aller au bout de soi-même parce que chaque joueur préfère être sur le terrain. Mais quand tu sens que ça va pas et que tu n'aides pas ton équipe, je pense que c'est important d'être honnête. Et moi, ça a été le cas pour Pau et Angers, donc c'est pour ça que je l'ai fait. Et puis derrière, on a Antoine qui est rentré, qui a été frais, qui a fait ce qu'il fallait, donc c'est important. Mais ces enchaînements m'ont permis d'être maintenant, je ne vais pas dire au top à 100% non plus, mais pas loin. Donc je peux sans souci faire 90, ce qui était le cas... En plus, avec un enchaînement très, très proche cette semaine.
Et c'est ce qui vous a peut-être permis, effectivement, de monter en puissance progressivement et d'arriver au bon niveau maintenant.
Parce que vous avez disputé tous les matchs, bon, pas toujours en tant que titulaire, on vient de le dire, mais vous avez disputé tous les matchs de Rodez depuis le début de la saison en Ligue 2.
Ouais, c'est ça.
Donc, le staff a su vous gérer après, justement, cette période blanche, vous a réintégré dans le 11 de Rodez ensuite, et puis maintenant, on va pas dire que vous êtes quasiment indéboulonnable, mais pas loin. On ne veut pas non plus trop
flatter. Il y a un bon staff à Rodez.
Ouais, effectivement. Il s'est enrichi, en plus. On en a parlé en début de saison. Voilà par rapport à ce que l'on pouvait dire autour de vous, Giovanni. Nous, on se donne rendez-vous évidemment ce samedi. On vous souhaite évidemment une belle performance sur le terrain.
Merci.
Nous, on sera dans les tribunes pour commenter tout cela.
Pour surveiller les touches.
pour surveiller les touches, effectivement. On sera là pour vous faire vivre cette rencontre entre Rodez et Caen. Coup d'envoi 19h ce samedi au Stade Polignon. Giovanni Hague, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Bonne
merci
semaine beaucoup, et bonne, merci bonne rencontre pour ce samedi.
Merci beaucoup.
Totem, le club sans et or.